C'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, pour qu'on puisse être là. Le monde ne connaît pas ces vérités-là. C'est en s'approchant du Seigneur, en méditant sa parole, qu'on peut comprendre vraiment la profondeur de son œuvre, sa mort sur la croix. Le monde en a fait peut-être, il est mort il y a 2000 ans, puis ils ont bâti le calendrier là-dessus, mais la plupart ne savent même pas pourquoi que c'est là. Ils savent qu'il y a un Jésus peut-être qui est venu, peut-être qui n'est pas venu. Puis là, mais nous, on sait que c'est quoi qui s'est passé. Puis parce qu'on a lu, puis on a approfondi les Écritures. Puis aujourd'hui, on le comprend pourquoi qu'on doit suivre Jésus, puis pourquoi qu'on va le suivre jusqu'à la fin. Parce que ses promesses, il n'y a rien de plus grand que ça. Dire qu'on s'en va dans la vie éternelle, là, c'est vraiment extraordinaire. Avoir l'assurance d'être sauvé, puis si on le sait que c'est pas grâce à nos mérites, c'est à cause de ses mérites à lui, il n'y a rien de plus grand que ça. Aujourd'hui, le sujet du message, j'en ai parlé un peu au début de la réunion, c'est pourquoi aller à l'Église. On le sait que c'est Dieu qui bâtit son Église, puis c'est à son plan éternel. Mais il y a des raisons décrites dans la Bible pourquoi que les chrétiens doivent y aller, se rassembler, pour devenir l'Église, parce que l'Église n'est pas une personne ou deux tout seul dans la maison chez eux, puis pas vouloir parler aux autres. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est un rassemblement, puis il y a des raisons pourquoi que Dieu veut qu'on se rassemble. Dieu il aime que ses enfants vivent la vie en communauté. Ça, c'est son plan, ça, depuis le début de la création. Il n'a jamais créé les humains pour qu'ils soient seuls. Il n'a pas créé ça pour qu'on soit seul, la création. Même les animaux. S'il aurait voulu, le Seigneur aurait fait que nos familles, on aurait tout ça, rien que d'une personne, tout aurait sorti tout seul, rien que d'une personne. Il a quand même fait que faut que tu sois deux pour commencer à reproduire puis faire des enfants. Dieu, il n'a pas créé les gens pour qu'on soit seul. Il a même dit que c'était pas bon qu'on soit tout seul. Dans Genèse 2:18, quand il a créé l'homme, il a dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai un aide semblable à lui. Dieu avait une vision qu'on travaille en équipe. Une équipe, c'est minimum deux. Mais des familles, c'est plus que deux. Oui, ça commence à deux, mais normalement, une famille a des enfants, des petits-enfants, puis des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, ça devient... Il y en a qui ont des familles de 75. Quand Abraham, puis il y en a qui avaient ont des familles, ils sont peut-être 10, 12. C'est pas grave. Dieu, il y a une vision qu'on travaille en équipe. Parce que quand il a dit ça au premier couple, après il dit qu'il n'est pas bon que soit seul, après ça au couple, il a dit à l'homme d'en avoir une grande famille. Quand il a dit ça dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit, puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, puis remplissez la terre. Dieu voulait pas que les hommes restent seuls. C'était déjà dans son plan qu'on se multiplie. Puis, il a comme donné un ordre aux humains de se multiplier. Parce que Dieu voulait qu'il y en ait une multitude d'humains sur la terre. Dieu il a une vision de groupe pour nous. Il n'a pas fait la création pour qu'on soit individuel. Dans tous ses projets, il y a une vision de groupe. Son peuple, son troupeau, ses enfants, sa famille, son église. Tout ça, là, chaque fois que tu lis ces mots-là, ça parle de rassemblement de groupe. Puis c'est de même que Dieu travaille depuis le début de la création. La parole de Dieu nous enseigne 8 raisons pour encourager les chrétiens à aller à l'église. Il y en a sûrement d'autres, là. Je vous donne les principales. Des choses qui sont enseignées parce que la Bible nous a dit telle affaire, c'est une bonne raison d'y aller à l'Église. La première, quelle est la première raison pourquoi je dois aller à l'Église? C'est parce que le Seigneur nous a appelés à faire partie de son Église. C'est un appel. Quand il nous a appelés, c'était dans le but de faire partie de son Église. C'était pas un appel à aller puis retourne-toi-en tout seul. C'est un appel à faire partie de son Église. Ça nous dit dans 1 Corinthiens 7, 17, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Faut bien comprendre que c'est un appel. On s'en est peut-être pas rendu compte, ou on s'en est peut-être rendu compte. Il y a eu un moment dans notre vie où ce que Dieu a dit, c'est le temps, faut que tu me laisses rentrer. Mais comment ça s'est dit ça dans notre esprit pour qu'on comprenne qu'il fallait que j'accepte de me repentir puis de donner ma vie au Seigneur? Il y a eu un commencement. Pour arriver à ce commencement-là, de se donner au Seigneur pour le suivre, pour le servir, mais ce commencement-là, c'est un appel qu'il nous a fait dans notre cœur. Parce que la Bible, elle dit qu'on n'aurait pas pu aller à Jésus sans que Dieu nous ait appelés. Le Seigneur le dit qu'il n'y a aucune brebis qui peut venir à lui sans que le Père ne l'appelle. Dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Puis là, je le ressusciterai au dernier jour. Il a fallu que Dieu nous attire. Fait qu'imaginez votre scénario, comment vous avez vécu votre conversion, là. Mais quand ça s'est produit, c'est Dieu qui vous y était vous chercher. C'est lui qui a fait les premiers pas. Il savait que vous auriez la foi, puis il savait quoi faire, les meilleures affaires, puis j'ai servi soit de la télévision, soit de la radio, soit un pamphlet, soit de quelqu'un de proche, ou même un étranger qui est venu vous parler de Jésus, puis là, vous avez commencé à penser au Seigneur. Peut-être vous allez ici servir de la Bible en lisant qu'une Bible que quelqu'un vous a donnée, que vous avez achetée. Puis toutes là, les scénarios possibles qu'il a utilisés pour qu'on arrive au point d'y donner notre vie puis commencer à obéir, là. Il y en a qui vont dire, c'est le hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. C'est Dieu qui vous a appelé. Jésus l'a dit, il n'y a personne qui aurait pu aller à Jésus sans que le Père ne l'attire. Il a travaillé, puis ça nous le dit dans un autre passage, c'est le Saint-Esprit qui fait une conviction de péché. C'est le Saint-Esprit qui fait une conviction de dire, « Hey, je m'en vais en enfer, là, je vais être sauvé, puis c'est Jésus qui est mort pour pardonner. » Mais tout ça, là, cette compréhension-là, c'est venu parce que c'est Dieu qui vous a attiré. Puis on a entendu son appel, là, on l'a entendu qui est venu nous dire, mais c'est pas nécessairement une voix directe. Des fois, c'est peut-être par la lecture ou par les audios, par la bouche de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous en a parlé pour commencer, puis après ça, ça s'est développé par notre intérêt. On l'a entendu, puis on a répondu à son appel, puis son appel, c'était d'entrer dans son troupeau. Un appel direct. Le Seigneur nous le dit dans Jean 6, 44. Non, dans Jean 10, 16, excusez. Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis, elles sont pas de cette bergerie. Là, il parlait des païens, parce que là, Jésus est en train de travailler parmi les Juifs. Il dit, j'en ai encore d'autres brebis qui font pas partie de cette bergerie, puis celles-là, il faut que je les amène. On voit que c'est encore le travail du Saint-Esprit pour amener les païens. Elles entendront ma voix, et il y aura plein d'individuels. Non. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est Dieu, c'est Jésus le berger. Mais on était appelés à faire partie de son troupeau. Tu vois que le Seigneur parle de groupe. Il n'a jamais parlé de brebis tout seul. Quand tu vas au Seigneur pour te repentir puis d'en rentrer dans son plan, tu rentres dans son église, tu rentres dans son troupeau. On fait partie d'un troupeau. Un troupeau de brebis, de moutons, là. Puis les moutons, ça suit le berger. Puis c'est ça qui est l'exemple de cela. Puis les brebis, quand ils sont ensemble, c'est là qu'il se passe quelque chose. Là, on regarde des raisons pourquoi qu'on doit suivre, pourquoi qu'on devrait aller à l'église. Mais c'est la première raison, c'est parce qu'on était appelé à faire partie de son troupeau qui est l'Église. Deuxième raison pourquoi qu'on devrait aller à l'Église. Parce que le Seigneur veut que son Église soit unie, rassemblée dans le troupeau, là, afin que le monde reconnaisse Jésus. Wow, là, on rejoint un peu la prière que Jean-Claude a faite tantôt, quand il dit « afin que le monde puisse reconnaître Jésus ». Puis comment est-ce que le monde peut reconnaître Jésus quand on est 2000 ans plus tard? Mais dans le prochain verset, on va voir que c'est important d'être là afin que le monde reconnaisse Jésus. Regardez dans Jean 17, le verset 20. Il dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Là, il parle de nous, là aussi. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Là, il veut qu'on se réunisse, puis qu'on soit un, comme Jésus est à un avec son Père, puis son Père est à un avec lui. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Ça veut dire, là, on parle d'un troupeau, on ne parle pas rien que d'une personne individuelle. Son Église, son troupeau, qu'elle soit un, comme un en Dieu, puis Dieu en nous, puis qu'on est un. Afin que, ça dit bien, afin qu'eux aussi soient un en nous. On parle de plusieurs personnes, ça parle du regroupement. Puis c'est pour quel but que on va être un avec le Seigneur, puis que le Seigneur va être un en nous, puis qu'on va être un en tant qu'Église, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, on rentre comme dans une autre pensée. Le but d'être un, c'est pour que le monde voit Jésus. Parce que quand tu es un, Jésus le dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Quand l'Église va marcher dans l'unité, dans l'amour, c'est là que le monde va reconnaître l'amour, puis vont reconnaître que Jésus est vraiment au milieu de vous. Quand quelqu'un rentre dans l'Église, puis il ressent cet amour-là, ils vont être attirés. Puis si quelqu'un rentre dans l'Église, puis il ne ressent pas, puis il voit de la division, des chicanes, que le monde n'est même pas là non plus, c'est pas mieux non plus, ils ne verront pas Jésus dans l'Église. C'est une religion. Puis il continue à dire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Il veut qu'on soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Quand le monde va ressentir l'amour qui est là, puis qu'on soit parfaitement un, ils vont reconnaître que Jésus est présent au milieu de nous. C'est ça que la deuxième raison que je vous donne pourquoi il faut aller à l'Église. Parce qu'on est là pour être dans l'unité, pour développer l'amour, pour qu'on marche dans cette unité-là que Jésus nous demande. Ceux qui cherchent à être à l'école, je le dis souvent, ils cherchent ce qui leur plaît. Ceux qui cherchent à être à l'Église cherchent à plaire au Seigneur. Ils sont là pour le Seigneur, puis ils sont là aussi pour recevoir du Seigneur, mais aussi pour donner ce que le Seigneur va faire à travers de nous pour les autres. L'amour, c'est ça. On est ici pour tout le monde, pour que les bénir les autres. Est-ce que vous êtes ici pour bénir les autres aussi? C'est ça qui est le but, pour que si quelqu'un rentre, il rentre ici, puis il dit, « Wow, il y a quelque chose ici. » L'amour de Dieu est là, Jésus est là. Troisième raison pourquoi il faut aller à l'Église. Puis ça, c'est des enseignements de la Bible, des enseignements qui sont donnés. Même le prochain, il vient de l'Ancien Testament. Un passage, mais qui était prophétique pour l'Église aujourd'hui. Dans le psaume 133, j'en ai déjà parlé un petit peu. Il y a trois versets dans ce psaume-là, mais celui qui a écrit ce psaume-là, il savait parfaitement l'effet que ça donne quand tu es dans une place où ce que l'Esprit de Dieu est là. Ça dit « Cantique des degrés de David ». Voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand les frères demeurent ensemble, le temps qu'on passe ensemble, c'est un temps précieux et béni pour recevoir l'huile qui est l'onction et la rosée qui est le rafraîchissement qu'on a besoin de recevoir, qui descend d'en haut, qui descend de Dieu. C'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. On veut-tu être béni par Dieu? C'est pas en restant chez soi qu'on va être béni par Dieu. C'est en allant à l'Église puis en s'attendant de recevoir de lui. Parce qu'il a dit que c'est là que ça se passe. Puis c'est prophétique, ce message-là. Puis même dans les Actes des Apôtres, il dit afin que il demandait aux gens de se convertir afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ça représentait les rafraîchissements que l'Esprit Saint fait quand on vient à l'Église dans sa présence. Il vient nous bénir, il restaure mon âme. C'était ça aussi l'idée que David vivait ça, d'être restauré dans son âme. Quand ton âme est sec, quand ton âme est abattue, quand ton âme est épuisée, fatiguée, t'as plus le goût de rien. Approche-toi du Seigneur, va à l'Église, va rencontrer Dieu, va célébrer le Seigneur dans les louanges, puis tu vas te sentir béni dans sa présence, puis rafraîchi, restauré, tu vas être remonté. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois, puis je suis sûr aussi, vous autres aussi, vous avez vécu des moments extraordinaires où vous avez été bénis dans la présence de Dieu. Puis si ça l'est pas encore été fait, que vous dites, j'ai jamais remarqué, prenez au mot ce qui est écrit là, puis attendez-vous sur Dieu qui vous le donne, qui vous donne des moments de rafraîchissement, puis qui vous bénisse. Vous allez, c'est là que Dieu libère, c'est là que Dieu il délivre, c'est là que Dieu guérit, c'est là que Dieu restaure, puis fortifie, puis il nous fait du bien. Des fois, on s'en vient, on rentre dans l'Église en rampant, tellement que ça va mal, puis on a eu des problèmes, puis on sort tout crinqué, pompé. C'est Dieu qui a fait ça, là. Même notre corps peut ressentir des effets de la présence de Dieu. Notre corps, notre âme, notre esprit. Puis on sort avec des informations qui nous boostent, qui nous encouragent. Puis c'est Dieu qui fait ça. Il a choisi de faire la vie comme cela. Une troisième raison pourquoi qu'on devrait aller à l'Église. Parce que l'Église, c'est une source de bénédiction puis de croissance donnée par Dieu. On en parle souvent, comme dit, c'est comme un oasis spirituel. Dans la semaine, là, on vit notre semaine, quand on arrive, mettons, le mercredi, c'est un oasis. T'es comme dans le désert, là, sans boire, puis quand t'arrives à l'église, tu t'en vas boire aux sources d'eau vive, qui sont les sources de Dieu, que tu reçois sa parole. Déjà, ça renouvelle ton esprit, ton espérance, de la foi. Ça réveille ta passion pour Dieu. Puis là, tu rentres dans la louange, puis là, tu es rempli du Saint-Esprit, puis tu es fortifié. C'est un oasis de restauration. Tous les dons puis les ministères ont été donnés par Dieu pour le perfectionnement des chrétiens. Tout ce que Dieu, autrement dit, Dieu a déjà tout donné, les dons puis les ministères dans son Église pour qu'on soit édifié, fortifié, élevé, qu'on grandisse, tantôt le verset au début de la réunion, et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agissant à travers chacun des frères et sœurs dans les dons puis les ministères, bien, ça fait accroître, ça fait fortifier. Plus qu'on on apprend les choses de Dieu, plus qu'on rentre dans les choses de Dieu, plus qu'on devient des hommes et des femmes solides dans le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 4, 11. Dieu, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Fait que, être ensemble, tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir perfectionné. Tu vas devenir être un homme ou une femme de Dieu, mature. Parce que tu vas recevoir ce que le Saint-Esprit va faire à travers les ministères pour grandir et être fortifié. Le quatrième point, pourquoi qu'on devrait aller à l'Église? Parce que lorsqu'on est réunis ensemble, nous nous fortifions de plus en plus. Puis on revient encore un peu avec la même idée. Tu te fortifies en recevant les enseignements, mais tu te fortifies aussi en tant que disciple qui s'édifie et qui s'encourage. Parce qu'il n'y a pas juste les ministères qui fortifient. Entre nous autres, là, entre chrétiens, on peut se parler puis se donner ce qu'on a compris, ce qu'on apprend, puis là, on se bénit. Dans Actes 16:5, ça dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » C'est pas le même verset que tantôt, mais ça disait la même affaire. Que l'Église était en paix dans la Judée, s'édifiant puis marchant dans la crainte du Seigneur. L'Église s'édifiait puis marchait dans la crainte du Seigneur. Là, ça dit que les Églises se fortifiaient dans la foi. Fait que quand tu vas à l'Église, veux pas, avec tout ce qui va sortir de bien, parce qu'on parle pas des fois que ça va mal, là, que des chicanes ou des disputes ou des divisions, mais quand l'Église est vivante et est en santé, tu vas sortir de là béni. Ça se peut pas que tu ailles à l'Église et que tu n'aies pas été béni à quelque part. C'est pas normal. Il y a soit qu'on est fermé et on n'écoute pas, que ça nous rentre par une oreille, ça sort par l'autre, puis on veut pas se connecter, on veut pas venir offrir à Dieu les louanges, l'adoration, puis les prières, puis à marcher dans l'unité avec les autres, parce que tu peux être une personne renfermée, puis t'oses pas, tu veux pas être touché par rien, puis c'est comme froid, autrement dit. Mais si une personne est comme ça, c'est sûr que c'est plus dur à passer, mais il faut être ouvert à Dieu, puis ouvert à écouter ce qui se passe, parce que le Saint-Esprit veut agir pour nous sortir où ce qu'on est pogné. Parce qu'on a toutes des blessures, puis des fois nos blessures nous empêchent de goûter, mais confie-les au Seigneur, puis le Seigneur il va t'en délivrer. Dans l'Église, le but de l'Église, c'est qu'on se fortifie dans la foi. Puis il y a un autre passage qui nous dit que dans Actes 15:32 que les enseignements et les exhortations sont inspirés de Dieu pour nous fortifier. Ça dit que Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Fait qu'entendre des discours, des enseignements, par des pasteurs ou des enseignants ou des prophètes, ils prêchent la parole. Puis le but de prêcher la parole, c'est de fortifier les disciples par les enseignements, par les discours. Fait que quand on vient à l'Église, qu'on passe 45 minutes, c'est comme aller à l'école. À l'école, tu as des matières là, que tu passais 50 minutes ou 55 minutes par matière, d'un cours de français, d'un cours de maths, d'un cours d'anglais. Ici, on vient pour un cours de la Bible, une étude biblique. Puis c'est une étude basée sur les Écritures. Puis quand ça vient sur les Écritures, c'est la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle. T'entends des versets qui sont un pain spirituel que Jésus a dit, l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand t'entends la parole de Dieu, t'en manges. Il se passe quelque chose spirituellement, parce que la parole est vivante, puis elle est efficace, puis elle pénètre ton âme, ton esprit, ton corps, elle rentre en dedans, puis elle fait une œuvre de puissance, parce que c'est Dieu qui a fait que cette parole surnaturelle-là qui vient de lui agisse dans nos vies. Puis c'est par elle qu'on est sanctifié aussi. Le Saint-Esprit sert de la parole pour nous sanctifier. Puis aussi pour nous fortifier, parce que là, ils entendaient des discours, puis ça les a exhortés, puis ça les a fortifiés, que ça dit dans ce verset-là. Fait que quand on vient à l'Église, pourquoi qu'on va à l'Église? Mais une des raisons, c'est pour entendre les prêches, puis entendre ce que l'un ou l'autre peut dire, puis ça a le but de nous fortifier. Des fois, Dieu sert d'une prière d'un frère pour recevoir une bénédiction de Dieu. Tu vas à l'église, là, puis il y en a un qui va prier, puis tu vas sortir, puis tu sors de là, de la réunion, puis il s'est passé quelque chose. Tu as senti quelque chose, puis Dieu t'a peut-être guéri ou délivré de quelque chose. Paul, lui, disait dans Romains 1, 11, il dit, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Fait que même lui, quand il allait à l'église, il s'en allait dans le but de rencontrer les chrétiens, puis aussi de donner, de se donner dans ce qu'il a reçu. Fait que veut pas, quand les chrétiens sont connectés avec le Seigneur dans la semaine, ils arrivent à l'église, là, puis ils ont des paroles, puis ils ont des prières pour les autres, parce qu'ils sont fortifiés dans le Seigneur eux-mêmes, là, ils fortifient les autres, veut pas. C'est le but d'aller à l'église pour cela. Un autre but, pourquoi qu'on devrait aller à l'église? Parce que le Seigneur se sert du témoignage des autres pour nous modeler. Dans Philippiens 1, 14, on en a parlé parce qu'on est en train de faire l'étude sur Philippiens. Puis là, c'est Philippiens 1, 14, on l'a vu. L'apôtre Paul, il vivait des épreuves, il était en prison, puis... Il y a du monde qui critiquait l'apôtre Paul du fait que lui, Paul, continue à évangéliser, même s'il n'a pas le droit d'évangéliser, puis il s'est fait mettre en prison. Puis lui, il dit, on continue à en parler, si vous voulez avoir la suite de ça, venez le mercredi, je veux pas dire des hymnes d'avance, pour que vous savez déjà le punch, mais il y a du monde qui était contre l'apôtre Paul dans son idée de continuer à évangéliser, puis lui, il dit, moi, j'ai été sauvé pour parler de la parole. Il était appelé à prêcher, puis il continuait à prêcher, puis il était prêt à glorifier le Seigneur à sa vie ou à sa mort. Mais là, il dit dans ce verset-là, au verset 14, il dit, « La plupart des frères dans le Seigneur, ils étaient encouragés par mes liens. » Il y en a qui critiquaient, mais il y en a d'autres qui étaient encouragés du fait que Paul était en prison. Ils entendaient que Paul était en prison à cause de... qui prêchait l'Évangile, puis là, il y en a des chrétiens qui étaient encouragés d'entendre son témoignage. Puis ils ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ça a boosté des chrétiens. Le fait d'entendre que l'autre qui est en prison à cause qu'il prêchait, ça a boosté des chrétiens pour que les chrétiens veulent aller, eux aussi, aller évangéliser. Fait que l'Église veut pas, quand t'es là, t'entends des témoignages qui vont te booster, puis qui vont te donner une vision même de l'œuvre de Dieu, puis ce que tu pourras faire pour avancer encore plus pour le Seigneur. Parfois, le témoignage d'un frère nous apporte aussi une consolation qui vient de Dieu. Parce qu'il y a des frères qui ont vécu des épreuves, puis là, ils ont prié le Seigneur, puis là, ils racontent le témoignage, comment est-ce que le Seigneur les a délivrés. T'entends cette parole-là, puis là, ça te donne une consolation, ça te donne un encouragement à toi aussi, que tu vis le même problème qu'elle, puis tu vois là-dedans peut-être un moyen comment t'en sortir, parce que t'as entendu l'autre personne dire un témoignage qui va t'aider à avancer tout ici, puis à passer à travers de ton épreuve. Dans 2 Corinthiens 1, 4, Dieu, il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ça veut dire qu'il y a des gens qui souffrent, puis il y a d'autres gens dans l'Église qui ont déjà souffert de la même affaire, puis qui ont passé à travers, puis sont capables par leurs paroles d'encourager l'autre pour y aider à passer à travers de son épreuve. Ça veut dire que l'Église, Dieu, c'était dans son plan que Dieu console certaines personnes, sachant qu'un jour, ils vont être capables de consoler d'autres personnes. Puis ça, ça vient de Dieu. Puis ça se passe dans l'Église encore. C'est le plan de Dieu, c'est qu'on travaille ensemble, qu'on soit un solide assemblage, puis s'il y en a un qui tombe, l'autre le relève. Il aide à se relever. Un autre point pour lequel qu'on doit marcher ensemble, puis rester dans l'Église, puis travailler ensemble, parce que c'est plus facile ensemble d'atteindre l'objectif de persévérer jusqu'à la fin. Quand tu es tout seul à marcher dans ta famille, puis tu n'as pas de contact avec d'autres chrétiens, c'est tough. Puis quand on se revoit tous les semaines, on y pense même plus qu'on est obligé de faire un effort pour suivre le Seigneur. On est content d'être là, puis on est content de se voir. C'est encourageant. C'est encourageant, puis ça nous aide à continuer. Puis il y en a que la manière qu'ils vont te parler, ça va te donner le goût encore de continuer à suivre le Seigneur, puis à persévérer dans tes épreuves de la semaine, pour continuer à garder la foi jusqu'à la fin. Dans Ecclésiaste, au chapitre 4, le verset 9, ça nous le dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » On comprend bien ça qu'en équipe, c'est plus facile. Puis quand tu es une équipe de 10, 20, 30, 50, l'équipe est encore plus forte. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Puis si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Puis la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Tout ça, là, c'était pour expliquer que c'était mieux en équipe. C'est mieux en groupe que d'être tout seul. C'est plus facile, surtout quand je parlais tantôt, de persévérer. L'un tombe, l'autre le relève. Quand que quelqu'un va voir quelqu'un qui est en train de tomber, là, puis il essaie d'y parler pour lui faire comprendre, c'est sûr que l'autre peut encore dire non, mais il peut dire oui aussi, puis si au moins il y a quelqu'un pour essayer de le relever. On est ensemble, on est une équipe, on marche ensemble vers la même direction, c'est de garder la foi jusqu'à la fin, pas question qu'on abandonne. Les temps vont peut-être devenir plus durs dans le monde, mais l'Église va devenir plus forte dans l'Église. Il faut être capable de passer à travers. Puis même s'ils disent, vous n'avez plus le droit de vous réunir, on va trouver un moyen de se contacter pour continuer à rester connectés. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. La corde à trois brins, elle ne se rompt pas facilement. Une corde qui est tressée là, avec trois fils, c'est encore plus fort. Comme les cordes de nylon, là, qui a bien des petits fils dedans, là, puis tout twisté ensemble. T'essaies de casser ça, c'est pas cassable. Ouais, tu rajoutes Jésus à un mariage, tu rajoutes pas une autre femme. Ouais. Quand t'es marié, tu remets Jésus dans ta vie de couple, puis c'est sûr que ça va être encore plus fort. Gloire à Dieu. Ensemble, c'est plus facile d'atteindre les âmes pour le Seigneur aussi. Dans Luc 10, 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, puis les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes ou les lieux où lui-même devait aller. 70 disciples, deux à deux, il y avait 35 équipes de deux. Ils sont partis là pour aller évangéliser où ce que le Seigneur y aura dû aller. Ça ne veut pas dire que Jésus y a été, mais c'est où ce qu'il fallait quand la parole soit annoncée. C'est sûr, ça faisait 35 villes de la Chotte qui étaient évangélisées. Puis ils disent, quand Jésus va revenir, ils n'auraient même pas fini de faire le tour de toutes les villes d'Israël. Fait qu'imaginez que il y en avait des villes dans ce temps-là. Là. C'était pas des grosses villes, toutes des grosses villes comme ici. Là. Il y avait des villages là-dedans, des petits groupes, des petits villages de je sais pas, d'une centaine de personnes. Mais il devait y avoir beaucoup de villages, beaucoup de villes. Tu regardes des combats quand que David, pour te donner une idée, là, David faisait des guerres. Pas David, avant David, dans le temps de Josué, puis il faisait des guerres, puis il y a eu des villes à conquérir, puis des grosses villes, des petites villes, puis il y a eu des centaines de villes à conquérir pour conquérir la terre promise. Ça nous démontre là-dedans qu'il y en avait des villes en Israël. Puis là, il dit, le Seigneur, il fallait qu'il aille porter la parole. Il fallait qu'il aille dans ces villes-là. Fait qu'il a désigné des équipes. Il a pas désigné des personnes tout seul. Dieu veut qu'on travaille en équipe pour atteindre les âmes perdues. Un autre point pourquoi qu'on devrait aller à l'Église, c'est parce qu'ensemble, nous unissons nos ressources pour continuer à aider les autres. Dans Acte 4, le verset 34, dans l'Église primitive, là, il y avait des gens riches, puis il y avait des gens pauvres. Puis là, les gens, ils ont commencé à vendre leurs propriétés pour aider les pauvres. Ils amenaient l'argent aux pieds des apôtres, puis là, l'argent était redistribué pour aider ceux qui avaient plus de misère financièrement. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y a personne qui avait faim. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, puis le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Fait qu'il n'y a personne qui avait faim. Il y avait comme une abondance qui était là parce que c'est pas juste une personne qui fournissait à tout le monde, c'est ensemble, toute l'Église, quand elle est unie, c'est plus facile de rencontrer besoin de ceux qui ont de la misère. Puis là, Paul, il l'enseignait un peu plus loin dans les Écritures. Il dit, si chaque membre donne, il sera possible d'amasser pour aider les autres, dans 2 Corinthiens 8, 13. Bien, il y a 13 puis 14. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, là, mais de suivre une règle d'égalité. Il dit, dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. On voit là-dedans que l'apôtre Paul a enseigné qu'il fallait que, quand tu es dans le superflu, tu aides de ceux qui ont de la misère, puis à un moment donné, ça peut être à ton tour que tu es dans la misère, puis son superflu va t'aider, puis qu'on ait toujours comme une règle d'égalité dans l'Église, que le monde manque de rien, des choses de base. Puis l'Église, c'est ensemble, c'est plus facile d'aider les autres. Moi, si je vais à l'Église, puis je vois des besoins, puis on l'a vu en tant qu'Église, on a fait des dons pour des situations. L'Église a fait des dons pour des situations, que ce soit pour aider les gens en haut aussi, ou aider les missionnaires, ou aider des œuvres missionnaires ailleurs. Ou, tu sais, l'Église, elle a un peu du lousse parce qu'on s'est mis ensemble. C'est une raison pourquoi que c'est dans le plan de Dieu qu'on unisse nos ressources pour faire avancer son royaume. Faut pas oublier que quand on est généreux, ça amène les gens à glorifier Dieu. Dans 2 Corinthiens 9, 13, il dit, en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Il y a une église qui vivait de la pauvreté, l'autre église a ramassé pour envoyer ça là, puis eux autres, après ça, ils glorifiaient Dieu de leur obéissance. Obéissance à quoi? À la parole de Dieu, que Dieu dit de prendre soin des autres chrétiens. Fait que si un chrétien dit, moi, je n'ai pas besoin dans l'église, je ne veux pas y aller à l'église, il désobéit au plan de Dieu, puis il ne sera pas actif dans l'obéissance d'obéir des autres chrétiens. Voyez-vous, c'est important qu'on soit là, parce que quand on est là, puis qu'on participe financièrement, ça fait aussi qu'on va aider quelqu'un qui est un autre chrétien, qui est Jésus aussi en dedans de lui. Puis en plus, ce gars-là va glorifier Dieu de ton don. Fait que c'est important qu'on soit ensemble, qu'on soit là, puis qu'on fasse des aides comme cela. On fait avancer le royaume de Dieu, puis on glorifie Dieu. Puis le dernier point, pourquoi qu'on devrait aller à l'Église? Puis il est autant important que les autres, n'a pas un plus important, ils ont toute une utilité pour nous bénir. Mais le dernier point pourquoi qu'on devrait aller à l'Église, c'est parce que la parole de Dieu nous commande de pas abandonner notre assemblée. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Oui, il y en a toujours eu du monde qui a abandonné la course, ils ont abandonné l'assemblée premièrement, puis à un moment donné, c'est pas long qu'il t'es voué plus nulle part. Si tu changes d'église, tu continues à aller à l'église dans une autre municipalité, t'es encore à la bonne place. Si c'est Dieu qui t'a conduit là, bien sûr, c'est parce que tu fuis les chicanes que tu fais, puis que là tu n'as plus de place à aller. Là, à un moment donné, il faut que tu réalises que faut t'arrêter de te chicaner. Là, tu marches dans un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu, lui, veut que tu t'installes, puis que tu travailles à l'unification. Il veut que tu bénisses les autres. Il veut que tu parles, puis que t'aides financièrement, t'aides moralement, t'aides avec tes discours pour pouvoir faire avancer, qu'on soit un. C'est ça la marche dans l'amour de Dieu. Dieu veut il nous commande dans ce verset-là, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'il y a du monde qui abandonnait. Pourquoi que le monde abandonne? En réalité, il abandonne l'obéissance à ce que Dieu s'attend, à ce qu'on soit un troupeau, un seul troupeau, puis qu'on marche dans l'amour. Il fuit quelque chose là-dedans qui fuit d'obéir au Seigneur. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons pourquoi que le monde fait ça, mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est comme quand t'es marié, cherchant à abandonner ton mari, là, c'est pas le plan de Dieu. À moins qu'il t'aille trompé, ça c'est une autre affaire, mais juste fuir parce qu'il n'est pas chrétien, non. T'es marié avec, puis toi tu t'es converti, puis l'autre l'est pas, continue à prier pour lui, puis le Seigneur va agir pour le ramener, ou s'il s'en va avec un autre, mais là tu seras libre, là, man. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, puis l'Église, c'est Dieu qui l'a uni. Il nous a appelés à faire partie de son troupeau. Ça s'applique aussi à cela. Que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni, puis qu'on doit apprendre à travailler ensemble, même si on dit « j'y aime pas à face ». C'est pas une excuse. Faut que je prie pour que Dieu me donne de l'amour, puis qu'il me donne ce qui me manque. C'est pas l'autre là, le problème, là. C'est nous qui avons un problème. Moi, je dois aimer tous les chrétiens. Même s'ils disent des choses ou ils font des choses que j'aime pas, je dois être capable de les aimer puis de leur pardonner puis de chercher à rester unis. Fait que, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est sûr que l'Église va s'accroître puis va marcher dans la puissance de Dieu. Ce matin, là, j'ai eu comme un flash là, de révélation là-dessus, puis j'en ai parlé un petit peu à Barnard au début de la réunion. Souvent, on veut marcher dans la puissance de Dieu puis chasser les démons puis les miracles. Puis on pense qu'on est dans la puissance de Dieu dans ce temps-là, puis que Jésus, comme qu'il a dit dans la parole, il dit, c'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté du Père. Puis là, il dit, on a fait des miracles, puis on a chassé des démons, puis c'est pas ça le critère que Jésus regarde pour voir si vraiment t'es en lui. Il obéissait pas à la parole. C'est quoi d'être rempli de la puissance de Dieu en premier de tout? C'est que la puissance de Dieu nous habite pour qu'on marche dans le fruit de l'esprit. Puis le fruit de l'esprit, c'est l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance. De la bienveillance, c'est de faire le bien. C'est la bénignité, là, c'est de la bienveillance envers les autres. Puis de la patience, de l'amour, c'est ça la puissance de Dieu agissant par l'amour. Avant de penser à faire des délivrances et des guérisons, que c'est pas une preuve pour Dieu, pour savoir si t'es vraiment un enfant de Dieu rempli de l'Esprit. Il y en a qui vivent ça, puis sont pas dans l'amour, puis ils sont pas dans le plan, puis ils rentreront pas. C'est apprends à marcher dans l'amour dans l'Église où ce que t'es. Apprends à marcher dans l'unité, dans la joie, dans la paix avec les frères et sœurs qui sont devant toi. Demande au Seigneur de t'amener, puis quand tu vas être là-dedans, tu vas être dans la vraie puissance de Dieu qui porte du fruit par l'Esprit. Tiens, on mène à quelque part. N'abandonnons pas notre assemblée. Mandons au Saint-Esprit qu'on s'accroisse, qu'on s'édifie, qu'on devienne une Église victorieuse en marchant dans les fruits de l'Esprit. Seigneur, je viens de prier dans le nom de ton Fils Yeshua, sachant que, premièrement, pour te remercier pour tes paroles, de ton message, Seigneur, continue à graver ces choses-là dans notre cœur, que ça soit vraiment des choses qu'on aspire, qu'on veut vivre. On veut vivre cet amour, cette unité, cette communion avec les frères et sœurs pour s'édifier, pour grandir dans la puissance de Dieu agissante dans l'amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire encore dans la suite de cette Église. On remet nos ventres à tes mains. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.